Ben pour cette fin d'après-midi, j'aimerais vous partager un, deux, trois réflexions et expériences sur le thème de pourquoi est-ce qu'on pratique la pleine conscience. On en parle beaucoup, on exerce beaucoup. Et pourquoi on développe autant d'efforts et que ça revient encore et encore dans les livres et dans les enseignements que vous pouvez entendre. Et pour vous donner une réponse toute simple et courte, c'est que la pleine conscience, ça va vraiment être notre outil dans la méditation, notre outil élémentaire sur ce chemin de ce que le Bouddha a appelé l'inébranlable paix du cœur. Et par pleine conscience, le terme pali, c'est sati. C'est un joli nom, sati. Certains le traduisent par attention. Des fois, on trouve des distinctions entre pleine conscience, attention. Il y a aujourd'hui de la confusion entre. Parce que pleine conscience, aujourd'hui, est aussi un terme utilisé à travers le MBSR, la Mindfulness Based Stress Reduction. Et du coup, il y a un peu des fois de la confusion dans la tête des gens sur ce qu'est la pleine conscience. Donc, par pleine conscience, on entend Sammasati, qui est un des huit aspects du chemin octuple. Et c'est pour ça que certains enseignants parlent maintenant de nouveau plus d'attention pour pas qu'il y ait cette confusion, ou la pleine attention, ou la juste attention. Et cette pleine conscience, je vais utiliser indistinctement le terme attention et pleine conscience, juste maintenant, même si on pourrait peut-être faire des petites. Voilà, si on creusait, on pourrait donner des petites différences. Mais cette pleine conscience, elle se base sur notre conscience ordinaire, celle qui est notre capacité à écouter, à parler, à voir, à goûter, à toucher. Et ce sixième sens, qui est celui de, chez les bouddhistes, qui est celui de penser, elle s'appuie là-dessus, mais elle ajoute notamment une qualité supplémentaire, indispensable, c'est celle de faire acte de connaissance, de savoir. Je sais que je vois, je sais que j'entends, je sais que je pense, je sais que je goûte, je sais que je touche ou que je ressens. Et c'est toute la différence entre un esprit qui pense et un esprit qui fait acte de connaissance. Et très simplement, on peut donner l'image dans la conscience ordinaire comme si on regardait un film captivé dedans. On est captivé dans un film, on pleure avec les personnages, on s'identifie aux personnages, on croit même que certains personnages existent dans la vie réelle parce qu'on a envie d'y croire. Et on est juste. Vous voyez ces films qui nous ont tellement captivés, on est complètement dedans quand on a peur, on pleure. On est content quand ça se résout bien, on a peur que ça se passe mal. En fait, c'est qu'un film. On est en train de regarder un film et on est complètement identifié dedans. Et ben, en pratiquant d'une certaine manière Sammasati, la pleine conscience, on apprend à prendre de la distance sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on goûte, sur ce qu'on touche. Pas pour dire que ça n'existe pas et que ce n'est pas la réalité, mais simplement pour petit à petit prendre conscience que c'est une réalité relative et qui est complètement conditionnée. Conditionnée à nos organes des sens, conditionnée à la manière dont je l'interprète. Totalement conditionné, individuellement, culturellement. Mais quand on prend un peu de recul, on peut émettre un sens critique, ce qu'on ne peut pas quand on est complètement dedans. On peut prendre de la distance, on peut avoir de l'humour, on peut en retirer des messages, une compréhension. Alors quand on a le nez dans le guidon, on a le nez dans le guidon. Donc, cette pleine conscience, on l'appelle des fois aussi attention pure, parce qu'elle est directe, elle est non discriminante, elle dit pas ça je veux, ça je veux pas, ça j'aime pas. On voit que ça aime pas, mais c'est une ouverture absolument totale à l'expérience dans l'instant, totale. Et c'est une attention à ce qu'on appelle les quatre fondements de la pleine conscience, que sont le corps, les ressentis, les états d'âme, les états d'esprit qui englobent les pensées, les émotions, les qualités de l'esprit quand il peut être somnolent ou comment dire, vigilant ou clair. Puis le quatrième fondement, c'est les dhammas, ce sont les phénomènes. Et là, on entre plus dans la psychologie bouddhiste et qui vise à nous faire porter la conscience sur notamment sur les mécanismes qui amènent notre esprit à nous attacher et du coup à nous emprisonner dans l'insatisfaction, la souffrance, et les mécanismes qui nous permettent d'en sortir. Et c'est un moine sri-lankais qui a dit ça à propos de l'attention pure. L'attention pure est la connaissance claire et entière de ce qui nous arrive réellement, à nous et en nous, dans les moments successifs de la perception. Elle est appelée pure parce qu'elle ne s'applique qu'au fait simple d'une perception telle qu'elle se présente, soit par les cinq sens physiques, soit par l'esprit qui, dans la pensée bouddhique, constitue le sixième sens. L'attention est limitée à un simple enregistrement des faits observés, sans y réagir par un acte, une parole ou une remarque mentale qui peut concerner une référence à soi, un jugement ou une réflexion. Si de telles remarques surgissent dans l'esprit, elles deviennent elles-mêmes des objets de l'attention, pures et ne sont ni répudiées ni poursuivies, mais rejetées après qu'une brève note mentale en a été faite. Donc ces quatre fondements, le corps, on cultive ce fondement pas typiquement quand on porte l'attention sur la posture du corps, par exemple, ou quand on ramène l'attention au corps en déposant l'attention sur la respiration. Les ressentis, eux, sont de trois formes. Ils peuvent être agréables, désagréables ou neutre. Et après, il y a des milliers comment dire, de petites différences, de nuances. Mais fondamentalement, c'est ça. Agréable, j'aime, je veux. Je veux que ça reste ou je fais en sorte que ça vienne. Agréable, j'aime pas, je veux pas, je rejette. Et neutre, c'est souvent l'ignorance. Je vois même pas, en fait, qu'il y a quelque chose de neutre en moi. Je donne toujours ce même exemple, mais parce qu'il me plaît. Pour moi, il me parle. C'est le coude. L'expérience du coude, en fait. Est-ce que vous avez porté un seul instant pendant ces dernières assises une attention à votre coude? À part, bien sûr, s'il vous tire et vous fait mal. Généralement, il n'y a ni une sensation agréable, ni une sensation désagréable dans le coude. On n'y porte aucune attention. C'est neutre. Et pourtant, c'est incroyable un coude comme ça fonctionne. Il suffit qu'il ne fonctionne plus et je peux dire que vous allez y penser souvent à votre coude. Ça va tout de suite devenir un problème. Donc les ressentis neutres sont souvent liés à beaucoup d'aveuglement et d'ignorance parce qu'on les, on les, on les, on les considère comme étant normaux. Enfin, tout ce qui fonctionne. Ça ne nous provoque ni agréable ni désagréable. Et c'est une fois qu'il ne fonctionne plus qu'on se dit « Oh, c'était quand même si bien quand il fonctionnait. » Donc ça, c'est les ressentis. Les états d'âme, comme je vous ai dit avant, ça peut être toute la panoplie des pensées, des projections, des émotions qui sont là et on les note dans cette présence. Ok. Des fois, on peut faire l'exercice dans l'assise de noter ah, pensée passée, pensée future, projet, commentaire sur maintenant. du doute. À force de méditer, des fois, on voit les mêmes radiofréquences se mettre en place. Ah, là, il y a la fréquence enseignée en méditation. J'arrive plus à sortir de la fréquence. Ça continue à dans la tête, à construire des trucs. C'est bon, là. C'est intéressant de voir, parce que derrière, il y a souvent un peu d'inquiétude. Hein, derrière toutes ces pensées, cette agitation constante, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de toujours... Pourquoi est-ce que ça a besoin de penser à ce que je vais raconter devant vous? Alors que soit c'est pas encore arrivé, soit c'est déjà passé. C'est intéressant. Puis les phénomènes, le quatrième fondement, je ne vais pas l'aborder ici, mais typiquement, on porte l'attention sur les quatre nobles vérités, sur les facteurs de l'éveil, sur les agrégats de l'attachement, sur comment l'expérience de l'instant, dans l'instant présent, se constitue, et comment on construit dessus, et comment l'ego se cristallise autour de l'expérience. Comment tout d'un coup une expérience fondamentalement impersonnelle devient à moi, mon expérience. C'est à moi que ça arrive. Donc Sati, elle peut être à la fois très ciblée, quand on porte attention par exemple sur la fin de l'expiration ou sur une sensation particulière dans le corps, ou une émotion, ou une pensée, elle peut être très pointue, très ciblée. Puis en même temps, elle peut être très ouverte, et puis offrir simplement un espace de réceptivité à ce qui émerge. Elle peut être du coup aussi très pénétrante. Allez, on peut aller voir de très près. Et en même temps, on peut aussi prendre de la distance et observer de loin. Elle est bienveillante en elle-même parce que fondamentalement, elle accueille sans discriminer. Et qu'on éprouve de la bonté ou de la bienveillance dans l'instant, du moment où on pose une attention sur une expérience sans la juger comme étant bien ou mal, c'est déjà une forme de bienveillance, parce qu'on laisse vivre les choses telles qu'elles sont. Il y a un respect profond de ce qui est. Donc elle est bienveillante, mais elle peut être extrêmement persévérante aussi, endurante. Peut rester longtemps avec des expériences désagréables. Donc c'est pas de l'hypervigilance. On ne confond pas la pleine conscience avec de l'hypervigilance. L'hypervigilance témoigne plutôt d'un organisme qui est face à un signal de danger. Ou face à des symptômes post-traumatiques, par exemple. Le système reste dans un état d'hypervigilance. Donc c'est quelque chose, ça tient quelque chose de beaucoup plus détendu. Bien sûr, on la cultive, on revient encore et encore, mais rien dans les retraites ou à la maison, il n'y a rien à devoir se forcer, à devoir toujours être là, et puis je lève mon petit doigt, là, j'avance. On peut nommer, je prends le téléphone, j'allume la lumière, mais ça se fait de manière douce, organique, il n'y a pas besoin de se tendre pour le faire, ou d'être vigilant à tous les sons, à tout ce qu'on voit. C'est pas très... ce serait horrible si c'était là. Si c'est vers ça que ça nous amenait la pleine conscience, à devoir être sur le qui-vive en permanence. Il n'y aurait pas beaucoup de joie et de détente là derrière. Et elle ne tend en tout cas pas à nous couper du monde. On peut se dire, mais on médite, on ferme les yeux pendant des heures. On est dans notre bulle. Puis Pour certaines personnes, c'est très difficile, pour d'autres, c'est une bénédiction. Je suis dans ma bulle. On peut se sentir des fois très en sécurité parce qu'il y a une peur de l'extérieur et être aux anges dans une retraite, de n'avoir aucune relation, peu de relations sociales avec les gens, ça peut être magnifique. Ou vécu comme tel parce que ça gère une forme de sécurité parce qu'il peut y avoir une inquiétude et une peur des autres. Mais fondamentalement, on pratique la pleine conscience pour s'ouvrir au monde. Parce que justement, la pleine conscience, elle a cette qualité de curiosité, d'intérêt. Elle s'intéresse à l'expérience, plutôt que de l'évaluer et puis de dire, bon, là maintenant, il y a ça en moi, c'est pas bien, il y a toute une analyse, une réflexion, c'est comme ça, puis j'y crois, etc. Et plutôt quelque chose qui fait, oh, ok. Là, en plus, je suis en train de me construire tout un truc là sur ce qui est en train de se passer. Ah, intéressant. Comment c'est au niveau du corps, du cœur? Comment ça construit dans la tête? Donc, il y a cette curiosité qui se reflète aussi après dans la curiosité extérieure, dans l'engagement social. Et ça, c'est les dernières études aussi c'était des études relativement récentes aussi sur le système nerveux autonome et sur certaines branches de ce système nerveux qui semblent pouvoir qui semblent en fait nous amener justement à cette curiosité, à cet engagement, à ce jeu dans ce qu'on vit avec les autres, avec soi-même. Et c'est très intéressant de pouvoir faire des parallèles entre ce qu'on découvre aujourd'hui dans la science et puis ce qui est su déjà depuis des milliers d'années sans vocabulaire scientifique. Et c'est le Bouddha, non, c'est Joseph Goldstein, c'était une page, qui dit à propos en fait de l'attention, il dit ceci. Cet aspect de l'attention est une qualité de présence toute simple. Une conscience de ce qui est, sans interférence, comme cela se produit lorsque nous écoutons une musique que nous aimons. L'esprit est ouvert et attentif. Il n'essaie pas de contrôler ce qui va arriver, il ne réfléchit pas aux notes qui viennent de passer. Lorsque nous apprenons à écouter, une grande force se développe en nous. C'est cette qualité de réceptivité qui permet à la sagesse intuitive de s'éveiller. Et du coup, nous cultivons sati pour nous extraire d'une perception limitée, limitante, conditionnée de nous-mêmes, des autres et du monde. On s'en extrait pour établir une perception plus libératrice. Hein? L'humain, il a un potentiel de créativité, de solidarité, de construire ensemble, de compassion, de joie, et de courage, qui sont juste extraordinaires. Et on a tout cela en nous. Et puis d'une certaine manière, la planète sur laquelle on vit, au milieu de ce cosmos infini, c'est un paradis. Alors c'est étrange de voir ce qu'on en fait. Et de voir comment chacun de nous, à notre niveau, on est coincé. Notre cœur, il a de la peine à s'ouvrir. C'est pas parce qu'on le veut pas, mais c'est parce qu'il y a plein de schémas qui font que il y a quelque chose de lourd, c'est difficile, il y a de la peur. Et ça demande à vraiment respecter ça. Donc, en pratiquant la méditation, on développe un regard beaucoup plus honnête sur nous-mêmes aussi. Quand ça va trop vite, on prend tellement le temps ici d'être avec nous, Mais quand on est au quotidien, que ça va vite, c'est dur des fois d'être honnête envers soi, de pas se mentir. Entre ce que la tête dit, ce que le corps dit, ce que le cœur dit, ah, c'est pas toujours les mêmes messages. On suit souvent ce que dit notre tête, c'est pas souvent ce que dit notre corps ou notre cœur. Donc on peut être plus honnête sur nos parts sombres, mais aussi nos parts lumineuses. On peut être plus compassionné, en nous permettant de nous laisser toucher par la vie. C'est Montaigne qui disait, c'est chose tendre qu'est la vie et aisée à troubler. C'est pour ça que notre cœur est comme une petite huître tout le temps. Et avec la compassion, ça nous permet juste de petit à petit nous laisser un peu plus toucher par cette vulnérabilité hein, qu'il y a en nous. Ça nous permet de développer la sagesse en prenant du recul, en ayant plus de discernement. Et elle défait petit à petit ces voiles de l'ignorance. On appelle ça avidya, on a traduit ça par ignorance. Qui sont des perceptions erronées. Le Bouddha a parlé de quatre hallucinations de la perception. Quatre hallucinations de la perception. Qu'on a tout, à travers lesquelles nous voyons le monde et qui nous maintiennent dans l'insatisfaction et plus généralement dans ce qu'il appelle la roue du samsara, la roue des réincarnations, encore et encore. Et ces quatre hallucinations de la perception, la première, c'est de prendre ce qui est impermanent pour permanent. On a tendance à croire qu'on va jamais mourir. On a tendance à croire que tout un tas de situations vont rester comme ça, mais c'est pas vrai. On a tendance à croire qu'on est comme si, alors que. Et que les autres sont comme ça, puis qu'un tel groupe ethnique est comme ci, puis qu'un tel groupe ethnique est comme ça, que mon point de vue c'est ça, et que c'est pas ça. On pense que nos relations, elles vont rester comme ça, nos biens, notre confort, tout en fait. Il y a tellement de choses qu'on essaie de fixer, qu'on essaie d'attacher, soit on essaye de forcer que ça change, soit on essaye de faire en sorte que ça ne change pas. Et puis qu'on le veuille ou non, tout change. De la petite cellule, de petite cellule de votre corps aux galaxies, et à l'univers en lui-même. Et comment est-ce qu'accepter l'impermanence, le changement et ce caractère transitoire de toute chose peut être libérateur, c'est juste ça la question. En quoi ça peut faire? Oh, ouais, ça va changer. Ok. Il y a une situation un peu pourrie là, juste maintenant. Eh, pardon de paniquer, ça va changer. Il va y avoir une fin. C'est plus difficile avec nos. À l'intérieur, avec les trucs sur lesquels on lutte depuis des années, parce qu'on pense que ça va toujours être là. Mais là aussi. Peut-être que plus on lutte contre, plus on les maintient, finalement, plus on les renforce et on les nourrit. Donc en quoi reconnaître et comprendre la permanence peut être libérateur? L'autre aspect, l'autre hallucination de la perception, c'est trouver beau ce qui ne l'est pas. Sur un plan individuel, c'est pas facile, parce que forcément, on est attaché à ce qu'on trouve beau. Mais si on prend l'aspect sur une dimension plus collective et de société, on peut voir qu'est-ce que notre société trouve beau et qui nous détruit. De nouveau, on remet ça toujours en perspective d'une libération du cœur. Hein. Je ne vais pas te dire ça c'est beau, ça c'est pas beau, mais en perspective d'une ouverture du cœur, d'une libération de l'esprit, est-ce qu'on met vraiment en valeur les qualités humaines, dimension de beauté en chacun de nous, dans le monde, chez les autres. Est-ce qu'elles sont vraiment reconnues, valorisées? Mais il suffit de regarder. Ouais, écouter la télé, les séries et tout. On voit que cette beauté est mise sur le pouvoir, sur l'apparence, sur des choses extrêmement superficielles. Qui sont en plus impermanentes. Et si on pouvait davantage reconnaître la vraie beauté, ça nous sortirait certainement d'une certaine hallucination, d'une certaine manière. Hein, la violence, à quel point on trouve ça beau finalement, hein, toutes ces guerres. On trouve ça moche, mais en même temps on trouve ça beau. Hein, y a quelque chose qui est très attirant là derrière. On nous même plus révolter contre. Une autre hallucination, c'est de prendre ce qui est insatisfaisant pour du bonheur. Et on peut le voir dans chacun d'entre nous, dans nos vies. On court après des plaisirs, des sens, on court après, aveuglément, sans cesse, toute notre vie. Un peu plus de confort, machin, un nouveau truc qu'on s'achète. Et en soi, c'est pas un problème, mais on prend ça pour du bonheur. Et on court après ça, on met toute notre énergie là-dedans. On court après la reconnaissance, la richesse, le succès. Et c'est une quête sans fin. Et parce que ce sont des bonheurs impermanents, qui ne durent pas. Alors une fois que aussitôt que c'est terminé, on recommence jusqu'à notre mort. Et c'est pour ça qu'après le Bouddha parle de la roue du samsara, parce qu'après on recommence une autre. Puis on remet ça, et on remet ça, on remet ça. Donc on prend, comment il a dit ça, on prend ce qui est insatisfaisant pour du bonheur, parce que tous ces petits bonheurs ne constituent pas le bonheur, la paix, hein, cette véritable libération du cœur et de l'esprit qui est au-delà des conditions, qui n'a plus besoin de conditions, de paramètres précis pour être heureux. Ça peut paraître loin, mais peut-être que vous l'avez déjà senti, touché parfois. Et la dernière hallucination de la perception, c'est de prendre ce qui est impersonnel pour personnel. Et on peut voir comment on rapporte tout sans cesse à nous. Tout ce qui arrive, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend dire. On est sur la défensive, il y a quelque chose, un petit mot à protéger, qui se sent menacé. On rapporte tout à nous. On est, que ce soit dans les relations sociales, alors pas toujours, mais souvent, on peut le voir. Ça vous rappelle peut-être l'accord Toltec, le fait de ne pas prendre les choses personnellement. Mais on peut le voir à l'extérieur, comment on ramène les choses à nous. Tout arrive à moi. Et comme on peut le voir à travers la manière dont on est identifié à nos ressentis, à nos sensations, à nos émotions, à nos pensées. On pense qu'elles sont à nous et qu'elles sont nous. On ramène tout à nous, à moi, à Nicolas ou à vous, quoi. Et ça, c'est très douloureux parce qu'on n'arrive pas à sortir de ça. Parce que l'ego, il a toujours peur. Mais il continuera toujours à avoir peur de manquer. Il a besoin d'exister, il a besoin d'être reconnu, il a besoin qu'on le nourrisse pour pouvoir survivre. Alors, forcément, dès qu'il n'y a plus ça, ça se crispe. Donc on reste coincé là, sans parvenir à nous relier à une dimension plus impersonnelle et plus inconditionnée de notre nature en nous. Et voilà ce que le Bouddha disait à propos de l'attention. Bhikkhu, donc moine, voilà le chemin direct pour la purification des êtres, pour surmonter les pleurs et les lamentations, pour la disparition de la douleur physique et de la détresse mentale, pour la réalisation du chemin de vérité et du nirvana. Ce chemin direct, c'est la contemplation des quatre fondements de la présence. Et Sati, en plus des quatre fondements, nous offre d'autres qualités. Je vous ai parlé juste de deux autres. Une qualité, c'est de se souvenir. Elle nous permet de nous souvenir, de nous remémorer. Déjà de un, d'être là. Mais elle nous permet aussi de nous remémorer de notre intention. C'est quoi notre intention dans la vie? Mais quelle est notre intention dans notre travail? Dans ce qu'on fait, dans nos relations, dans chaque activité qu'on mène, ça lui permet de nous souvenir de notre intention. Ça fait toute la différence. Ça nous permet de nous rappeler de ce qu'on a appris dans notre vie, les leçons qu'on a apprises par nous-mêmes ou par vis-à-vis des autres, de ce qu'on a pu lire ou de ce qu'on entend, et de nous remémorer ça. On oublie tellement vite. Et on retombe tellement vite dans nos schémas. Donc, elle nous permet de nous rappeler. Et l'attention permet aussi de protéger l'esprit, notamment parce que quand on cultive la pleine conscience et quand un événement qui nous active, par exemple, là, il y a un contact à travers les sens, ça génère un ressenti, peut-être une perception, et plutôt que de partir sur les rails de nos programmes, on peut faire « Ah, je vois, pause. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je choisis de faire entrer dans mon esprit? Quelle série? Quelle information? Quelle nouvelle ?» C'est vraiment un gardien. Et autant notre corps, mais notre esprit aussi a besoin d'un gardien. Pour savoir ce qu'il a envie d'emmagasiner ou pas. Donc l'attention, elle permet aussi d'éviter l'émergence d'états malsains qu'on n'a pas envie. On peut les voir émerger, puis « Oh, ok !» Tac, de s'en détourner. Donc c'est un outil très puissant. Et on cultive la pleine conscience, comme on la cultive, on la renforce. On la cultive déjà en stabilisant l'esprit, en nourrissant l'éthique et la sagesse. Pour renforcer la pleine conscience et cette capacité d'accueil à l'instant, on a besoin de pouvoir stabiliser l'esprit. Si on est toujours complètement distrait, accaparé, dans tous les sens, fragmenté, on ne voit rien. Je veux dire, on est juste en train de... On le voit, hein, on est juste en train de subir et puis de réagir. On est presque des zombies à un moment donné. Donc on stabilise l'esprit en travaillant la concentration, en se recentrant, en travaillant l'ancrage, etc. Et sur cette base-là, et quand on fait ça, il y a physiologiquement aussi, hein, il y a la respiration qui retrouve un rythme, il y a la fréquence cardiaque qui retrouve un rythme, il y a une cohérence cardiaque qui s'établit, il y a toute la physiologie du corps qui change et qui permet ensuite à la pleine conscience de se déployer. Ça amène du calme, ça amène de la joie, une paix intérieure, et de pouvoir juste être concentré dans le sens présent. Et ça, on le fait en déposant par exemple juste sur l'objet de la respiration. On peut le faire sur d'autres objets, hein, sur une bougie, dans d'autres traditions, sur plein de choses, mais de manière générale, on le fait sur la respiration parce qu'elle est toujours là. Et la pleine conscience en elle-même n'est pas libératrice, elle n'est pas une fin, elle est un moyen. Si elle n'est pas mise au service de l'éthique et de la sagesse. Donc on va utiliser la pleine conscience pour la mettre au service de l'éthique et de la sagesse. Mais cette éthique et cette sagesse qu'on en développe, elle va en même temps renforcer après encore notre attention. Parce que quand on est plus présent, on peut être plus attentif à ce qu'on dit et à comment on agit. Et du coup, On peut choisir de prendre soin, on peut plus facilement choisir de prendre soin de nous-mêmes, de prendre soin des autres. Et tout ça, ce cadre éthique qu'on met en place pose des conditions soutenantes pour nous-mêmes et puis pour les autres, pour pouvoir faire ce processus. On appelle ça un processus de guérison, un processus d'éveil, un processus de tout ce qu'on veut. On a quand même besoin de conditions favorables comme on a ici. Hein, si on était au milieu d'un. Sur le front. Sur le front, sur un champ de bataille, ce serait un peu compliqué de pratiquer la pleine conscience ou d'être dans des situations sans cesse dangereuses ou dans des situations de survie où on a d'autres priorités. Donc on a besoin d'établir un contexte favorable et soutenant. Et la présence, elle nous permet de le faire plus facilement. Et elle nous libère du remords. Hein, quand on parle avec bonté, quand on fait attention à comment on dit les choses, sans non plus, on est d'accord, hein, je veux dire, on a toujours le droit d'être spontané et puis exprimer le non, hein, bien sûr, c'est clair, ou la colère. Mais c'est fait avec plus de conscience, il y a moins de remords qui s'établit aussi. Et la pleine conscience, elle renforce aussi la sagesse. Parce que quand on est plus présent et qu'on établit justement cet ancrage dans l'instant, ben toutes ces vérités universelles qu'on entend, que ce soit celle du Bouddha ou d'autres maîtres, on peut les confronter à notre expérience de vie, concrètement. Ce n'est pas juste un texte qu'on lit et puis auquel on croit ou on ne croit pas. On peut le confronter et puis se dire, ok, lui dit ça, et moi, comment est-ce que ça résonne pour moi, ça? Ok. Et c'est là qu'on approfondit vraiment. Parce que du coup, la sagesse, c'est plus quelque chose qui est juste mental. Hein, on est plus. On devient une encyclopédie de sagesse. Ça ne sert à rien. Mais ça devient quelque chose d'organique, quelque chose de vivant. C'est dans les cellules et le système que ça s'intègre et que ça se montre. Donc. Dans ce qu'on fait là, on voit mieux le processus de cause à effet, hein. Ce qu'on appelle le karma, l'action, réaction, les causes, les effets. On voit ce qu'engendrent nos pensées, ce qu'engendrent nos paroles, ce qu'engendrent nos actes. On comprend mieux et on voit mieux du coup les schémas qui nous maintiennent toujours dans l'insatisfaction, dans la peine, dans nos défauts, quoi. On en a tous, quoi. Mais on arrive mieux le voir. On arrive mieux l'accueillir sans les condamner, puis entrer en guerre là contre. Et on arrive aussi mieux à adopter, la présence nous offre cette force pour adopter et tenir cette attitude sage qu'on développe dans la méditation. Face à l'expérience. Et ça, c'est très important. Elle nous permet de nous positionner avec sagesse, avec ce qui est juste là. Hein. Plutôt que de réagir à une situation désagréable, comme on le fait automatiquement, il y a petit à petit quelque chose qui fait qu'on adopte une autre attitude. Et ça, c'est transformateur. Et je vais terminer par une parole de Pema Chodron, qui est une nonne occidentale, mais dans la tradition tibétaine. Et elle parle du coup de la présence. Ce que je préconise ici exige donc du courage. Le courage de changer de disposition. Il faut du courage parce que dès qu'on ne s'en tient pas à ses habitudes, endurcir le cœur et s'accrocher à tout prix à certains points de vue, on se retrouve avec le malaise profond qu'on cherchait justement à éviter. Dès qu'on se sent menacé, on se raidit. Et si on ne se crispe pas, que se passe-t-il? On reste avec cette gêne, ce sentiment de menace. C'est là que commence le véritable parcours de courage. C'est le véritable travail de l'artisan de la paix, trouver le point de vulnérabilité et la tendresse dans ce lieu très malaisé et demeurer avec ce point. Quand on arrive à rester dans cette vulnérabilité, le cœur tendre, on cultive alors les semences de la paix.